Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des formateurs libres, un podcast qui parle de ceux qui se lancent sur Internet grâce à leur savoir. Moi c'est Alex, l'œil marketing des formateurs libres, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Valérie Plou, artiste, peintre et dessinatrice depuis plus de 20 ans, et qui s'est lancée en ligne depuis il y a environ 5 ans. Je vous laisse découvrir notre conversation tout de suite. Alors, bonjour Valérie.
Bonjour.
Merci à toi d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Je suis vraiment content que tu participes à ce quatrième podcast des formateurs libres. Alors, avant qu'on rentre plus en détail sur tes activités, sur ce que tu fais et sur ce que tu fais en ligne, j'aurais bien aimé que tu te présentes de manière globale pour que nos auditeurs puissent cerner quelle personne tu es.
Oui, bien sûr. Voilà. Donc, je suis artiste peintre. Alors, on dit artiste peintre parce que c'est vrai que je crée depuis plus de 25 ans maintenant, hein, mais la première partie de mon activité était vraiment consacrée à la création pure, avec toujours un temps pour les cours et l'enseignement du dessin et de la peinture en atelier. Et donc, je poursuis toujours cette activité qui a pris un peu le dessus, mais c'est une vraie passion. Donc de transmettre, et maintenant bon, je le pratique toujours en atelier ainsi que sur Internet.
D'accord, ok, super. Donc tu me dis que tu as différentes activités, moi je te connais un petit peu plus, donc je sais vraiment que tu as différents projets. Est-ce que tu peux me parler de ce que tu fais avec Voir et Dessiner, puis après de ton projet de Kid Hydro? Ça m'intéresse.
Finalement, en fait, c'est une continuité de ce que je fais depuis plus de 20 ans. Les ateliers, les cours sont destinés aux enfants comme aux adultes dans le domaine artistique. Donc, j'ai des publics d'enfants, puis à d'autres moments, j'ai des publics adultes. Ce qui fait qu'en ligne, lorsque j'ai voulu mettre en place ces cours à distance, la première chose, c'est que j'ai commencé par les adultes. Et puis, c'est vrai que la pratique régulière d'être avec des enfants, l'échange que j'ai avec les enfants, m'a donné envie finalement de transmettre plus largement, enfin au-delà de mon atelier, de toucher plus d'enfants. Avec en plus leur, enfin ils sont passionnés quand ils aiment quelque chose, et très vite ils se tournent vers les nouveaux outils numériques forcément. Ils consomment des vidéos, ils vont sur les réseaux sociaux. Donc ça me paraissait naturel. Donc voilà, j'ai intitulé les cours de deux manières, un pour les adultes, Voir et Dessiner, et un pour les enfants, Kid Hydro. Voilà.
D'accord. Donc, si je comprends bien, ça fait, tu me dis, plus de 20 ans que tu fais de la formation pour des adultes, donc à travers Voir et Dessiner.
En atelier à Marseille, Voir et Dessiner est né il y a 3-4 ans, dans ma tête même 4 ans, pour les mettre en ligne. Voir et Dessiner, c'était un nom, un intitulé que j'ai, je pourrais en parler après, trouvé voilà, par rapport à l'approche pédagogique que j'ai. C'est en atelier que j'ai commencé d'abord.
D'accord, donc tu as d'abord commencé en présentiel, et c'est après, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure peut-être de tes apprentissages, de ton expérience, que tu as décidé de te lancer sur Internet aussi.
C'est ça.
Et j'imagine que tu as voulu te lancer sur Internet pour essayer, comme tu me disais, de toucher un public plus large, et pourquoi pas aussi, du coup, d'augmenter ton chiffre d'affaires en parallèle.
C'est ça. Oui, largement, parce que le public, même dans un atelier, est limité en place, et également au niveau de mon temps. Mon temps, il est compté. Si j'ai des heures de cours, je peux aussi avoir des heures de création et tout le reste, toutes les autres tâches à effectuer dans la communication et les tâches administratives. Alors, c'est vrai que c'était pour moi évident et pertinent de savoir qu'il y avait des outils en ligne qui permettaient. Alors, quand on dit automatiser, c'est pas un mot que j'emploierais maintenant parce que même si j'ai cru pouvoir le faire, c'est semi-automatisé. Et quand bien même ça le serait totalement, j'en parlerai, mais la relation qu'on installe, le côté humain, qui pour moi n'est pas de l'automatisme pur, ben, il est vraiment, vraiment nécessaire.
D'accord, c'est vraiment super intéressant ce que tu me dis, forcément on va rebondir là-dessus. Pour que j'essaye de comprendre un peu la taille que prend la formation en ligne et tes cours en présentiel, est-ce que tu peux me dire à peu près qu'est-ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires pour le moment, ton pourcentage de présentiel et ton pourcentage en ligne?
En présentiel, je pense être encore à 3 quarts, 75%, peut-être en ligne 25, 25-30. J'arriverai, je pense, bientôt à probablement 50-50. Bon, ça serait l'idéal parce que finalement, je voudrais pas perdre ma clientèle des élèves en présentiel, bah, parce que c'est un besoin aussi d'avoir quand même du contact réel et parce que j'ai aussi les conditions pour le faire, physique, un espace, un atelier. Après, effectivement, je consacre pour l'instant peut-être un peu plus de temps au développement des activités en ligne pour les promouvoir, les cours en ligne, parce qu'il y a aussi plus d'antériorité au niveau présentiel. J'existe à Marseille depuis 20 ans et donc il y a malgré tout le bouche à oreille, comme on dit traditionnellement, mais ça suffit plus. Il y a aussi les réseaux sociaux, il y a Internet, il y a la communication voilà, classique. Et beaucoup plus maintenant, je le fais sur les réseaux sociaux et tous les outils numériques. Donc finalement, c'est les deux, enfin voilà, servent et se complètent.
Je suis complètement d'accord avec toi. Et donc, alors, j'aimerais bien savoir un peu, quand tu as décidé de te lancer en ligne, qu'est-ce que tu as fait? Parce que j'imagine que toi, tu avais, bien évidemment déjà ton format de cours, ton idée d'apprentissage, mais quelles ont été les étapes vraiment concrètes quand tu t'es dit, OK, c'est bon, je me lance en ligne. Qu'est-ce que tu as fait? J'aimerais bien savoir, je suis un peu curieux, de A à Z.
C'est un vrai parcours. Si je repense il y a 4 ans, j'ai d'abord pensé que j'exerçais essentiellement par l'oral, je transmettais oralement, et j'avais besoin, même si je mettais par écrit des contenus de cours, des sujets, des thématiques, j'aimais bien compiler des choses, mais réellement rien qui serve à des personnes en tant que voilà, élèves pour apprendre. Donc je me suis dit, mais tout ce que j'ai transmis pédagogiquement, j'aimerais d'abord, tiens, écrire un livre pratique. Et puis j'ai pensé que l'édition traditionnelle, bon, c'était intéressant, mais que maintenant quand même avec le numérique. Et c'est en creusant cette voie-là que j'ai découvert la possibilité de l'e-learning, de la formation à distance. Donc je me suis tout de suite tournée je me suis mise à la recherche d'outils, véritablement, que j'ai pu trouver d'ailleurs très très vite. Et grâce à un outil que j'utilise, hein, mais voilà, qui maintenant existe. Il y en existe plusieurs qui me permet de vendre et héberger des cours en ligne. Donc ça, c'est pour la partie, voilà, hébergement, mise à disposition. Et puis, bien sûr, j'ai travaillé à la création de mes contenus. C'était pas une partie difficile parce que j'en avais vraiment envie et que j'étais dans mon expertise. Donc tout ça était facile à compiler, des supports PDF. Je me suis mise à la vidéo. Alors là, bon, effectivement, on peut se lancer pour la première fois dans la vidéo. Et ça va progresser. Je dis que la première fois, c'est pas évident. On cherche aussi bien techniquement parlant, et puis se sentir à l'aise. Et puis un beau jour, ça devient quelque chose d'habituel. Donc c'est aussi un parcours, là, une évolution. Ensuite, j'ai aussi voulu me former parce que je viens moi d'un domaine d'une activité professionnelle où j'utilisais peu le numérique et même l'ordinateur. Donc voilà, des outils numériques. Pour monter des vidéos, pour mettre en ligne des vidéos, pour utiliser les réseaux sociaux, pour faire de la communication, pour me former de nouveau. J'avais une petite formation quand même commerciale et marketing à l'origine dans mon parcours d'études, donc de nouveau aux outils numériques pour le marketing. Et tout ça conjointement, en même temps, en parallèle. Donc ça foisonnait beaucoup dans ma tête. Par moments, j'étais découragée, par moments, je voyais l'ampleur du travail, mais en continuant régulièrement, finalement, les choses se mettent en place et ce qui paraissait une montagne à un moment donné paraît, ben, c'est acquis, ça rentre dans la routine, ça rentre dans la pratique habituelle. Je m'en rends compte avec le recul. Donc, ça fait, avec le recul, on peut se dire beaucoup de choses, mais c'est comme tout, hein, c'est un parcours, ça se fait étape par étape, je pense.
Bien sûr, donc c'est bien, c'est très instructif parce que tu nous dis que même si tu n'avais pas spécialement de base en digital, dans le numérique, en fait, au fur et à mesure, si tu te concentres sur le sujet, si tu t'intéresses à cette thématique, tout le monde peut, à son rythme, se construire sa propre activité en ligne, même quasiment en partant de pas grand-chose. En tout cas, je parle de technique surtout.
Oui, les techniques, les outils existent et deviennent de plus en plus faciles à utiliser, y compris pour créer un site internet. Aujourd'hui, on peut le faire soi-même. Vraiment, si on a besoin d'un support technique, il peut être très limité. On n'est pas obligé de faire vraiment appel à un webmaster. On peut simplement confier certaines tâches et faire la différence entre ce qui est réalisable par soi-même, le contenu du site, et des parties un peu plus techniques sur lesquelles on se dit là j'irai pas parce que je ne souhaite pas, j'ai pas le temps, mais on peut faire la part des choses comme ça, au moins on fait appel à des experts, mais on sait sur quoi les faire travailler. Et dans les outils pour la formation, maintenant c'est pareil, il y a des choses qui sont en place, qui sont faites pour les formateurs. Donc comme ça, ils viennent avec leur expertise, ils ont du temps à consacrer à leur public, à leurs élèves. Et c'est super, voilà.
D'accord, c'est bien, c'est vraiment encourageant, je pense, pour ceux qui peuvent nous écouter. Et il me semble que tu es vraiment un bon exemple à suivre, en tout cas pour ce sujet. Du coup, ça me fait penser à la question que j'aurais dû te poser dès le départ. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes comme formation, concrètement, sur le web?
Alors, je propose des cours pour, on va dire, différents publics en dessin. Le dessin étant une activité qui peut se transmettre assez facilement. Dans un sens, c'est du visuel, c'est de l'image. Mais c'est pas de l'image fixe, hein, c'est-à-dire que j'ai besoin, moi, de créer des tutoriels, donc de les filmer, de les monter. Je fais des montages pour y ajouter des annotations, des commentaires, pour pointer, souligner des choses. J'accompagne ces vidéos de support PDF. Et donc les cours sont donc sur le dessin pour l'instant. Je n'enseigne pas la peinture parce que ça nécessiterait des moyens de vidéo plus importants pour pouvoir transmettre aussi des aspects en termes de matière. Il faudrait un studio beaucoup plus performant, un atelier studio plus performant, peut-être 2 ou 3 caméras même. Alors que le dessin c'est sur table et donc je peux proposer d'apprendre à dessiner pour des personnes qui pratiquent ça pour le loisir et pour d'autres personnes qui en ont besoin dans leur activité professionnelle. Et puis on distingue en les adultes d'un côté et puis les enfants, où là c'est pour le loisir, avec aussi de plus en plus d'enfants, adolescents, on va dire, qui commencent à réfléchir à leur orientation post-bac, quoi, et même avant, voilà, dans la filière des arts graphiques, tout simplement.
Bien sûr. Et est-ce que au-delà du contenu que tu proposes aussi un accompagnement individuel, personnel pour encadrer tes apprenants?
Alors exactement, au début, c'était un peu voilà ce qui me faisait pas rêver, mais j'entendais voilà la possibilité d'automatiser son activité, d'avoir plus de clients, plus de revenus. Et je me suis dit, bah, c'est vrai, tiens, par exemple, vendre un livre, un e-book, vendre des contenus vidéo en mode automatique, finalement, bon, c'est parfait. J'ai même commencé par ça. Ça fonctionnait déjà bien. Mais personnellement, je ressentais un peu de frustration, puis finalement, je perdais un peu le contact avec le public, dans le sens face à un écran, c'est pas toujours aussi naturel que de s'adresser en physique à quelqu'un. Donc, il faut aussi un petit peu, voilà, s'habituer à ça, ce mode de communication. Et quand on se dit que finalement, ce n'est pas plus différent que de recevoir quelqu'un qui tape à sa porte, à sa vitrine, et avec qui on va échanger une conversation pour renseigner la personne, la questionner sur ses besoins, bah, il faut retrouver ce naturel-là sur Internet. Et c'est vrai que avec cette réflexion, bah, ça m'a fait gagner beaucoup plus en confiance et en aisance. Et je me suis dit, mais non, les cours seuls, enfin, sans accompagnement, finalement, je me suis rendu compte que des gens laissaient de côté la formation, n'allaient pas au bout. Et puis j'avais des questions. Et donc j'ai quand même très vite proposé l'accompagnement avec des possibilités de faire des ateliers en live, et des accompagnements avec des outils qui permettent de suivre une communauté, un groupe, voilà, pour pouvoir s'y retrouver. poser les questions et répondre très simplement, partager des dessins. Et je dirais que c'est maintenant là-dessus que je mise et je mets ça en avant avant tout. Car des profs de dessin en ligne, il en existe plein. Mais si on met pas en avant la relation qui s'installe, les gens apprennent à me connaître avant de dire « Tiens, j'ai envie de prendre des cours avec Valérie. » Et c'est très important, voilà, je trouve, l'accompagnement.
Mm-hmm. C'est intéressant parce que tu n'es pas la première personne à souligner quand même l'importance de la proximité avec les apprenants. Et c'est vrai que pour moi, ça m'a l'air d'être une tendance, enfin plus qu'une tendance en fait, ça m'a l'air vraiment d'être le futur du e-learning. Forcément, il est important de proposer du contenu, que ce soit vidéo, audio, textuel ou autre, mais s'il n'y a pas un accompagnement derrière, on pourrait penser que on n'est pas sur un accompagnement, une formation complètement qui pourrait être complètement aboutie et du coup qui pourrait vraiment répondre à toutes les attentes des apprenants.
Tout à fait, oui, oui. Donc après, il faut savoir gérer cela, car sinon on retombe finalement dans ce qui est inhérent à toute activité professionnelle en face à face. Le client occupe votre temps, vous lui consacrez du temps, il vous rémunère pour ce temps. Donc dans l'accompagnement aussi, on peut trouver quand même du collectif, dans une certaine mesure, hein, en restreignant le nombre si on le veut. Plus c'est qualitatif, plus le nombre est restreint. Et ça peut justifier des tarifs d'accompagnement jusqu'à de l'individuel. Si on consacre du temps individuel à quelqu'un, eh bien, ça peut justifier un tarif aussi comme cela, quoi. Donc, c'est bien, il peut y en avoir pour tous les niveaux, toutes les bourses, et toutes les attentes.
Bien sûr, bien sûr. Donc, si je comprends bien, en fait, c'est vraiment après en fonction de l'envie de ton apprenant. Par exemple, il pourrait simplement rentrer, je sais pas si tu as un groupe Facebook privé avec tes apprenants, ou tout aussi bien te demander un entretien par visioconférence pour approfondir son dessin, ses compétences.
Oui, c'est ça. J'ai un groupe Facebook et techniquement, même avec notre solution, je peux échanger donc à moi après de formaliser ça dans mon offre de service. Donc c'est ça qui prend du temps aussi, hein. C'est à la fois d'être sur le terrain, en contact des gens, préparer ses contenus, les mettre en forme, organiser ses parcours de formation, et puis travailler la partie commerciale, marketing, pour mettre en forme tout ça avec une certaine cohérence. Mais après, c'est du bon sens. Et finalement, maintenant, les questions que je me posais au début, c'était quelle est la meilleure offre tarifaire, comment je vais... Et finalement, je trouve que ça, en en parlant même maintenant, je trouve que ça vient d'une certaine logique. Hein, si j'offre un temps individuel, je vais pas le faire payer au même prix que si c'est du collectif. Et même moi, après, je peux dire non, je ne suis pas disponible pour de l'individuel ou je le consacre que rarement. Donc, ce qui est rare est plus cher. Enfin, c'est logique tout ça, voilà. Et du coup, ça justifie que on n'a plus trop de mal à se dire je fais payer tel prix une prestation en individuel parce que mon temps est précieux. Vu tout ce que je fais d'ailleurs autour de tout ça, quoi, hein, comme tâches et fonctions. Si on travaille seul, maintenant, si on peut être une équipe de deux ou trois, c'est différent. Là, on aura une nouvelle logique de fonctionnement.
Bien sûr, bien sûr. Du coup, là, je suis en train de m'imaginer un peu le parcours de l'apprenant qui va arriver, par exemple, sur ton offre. Est-ce que tu proposes une formation avec un contenu plus un accompagnement, imaginons, collectif à raison de une visioconférence toutes les deux semaines, et après, tu fais, par exemple, un upsell avec une heure d'accompagnement individuel ou deux, comment ça se traduit concrètement, du coup, pour avoir cet accompagnement en plus ou l'accompagnement directement dans ton offre?
Alors, j'ai proposé en upsell, donc il y a l'accompagnement collectif. J'ai arrêté l'accompagnement individuel qui était proposé au départ dans une formation avec, je proposais trois corrections en mode vidéo, en direct, sachant que quand je suis en conférence vidéo, je partage la caméra sur ma table à dessin ou bien une tablette de dessin qui me permet de prendre le dessin qui m'a été transmis par l'élève et de voir avec lui en direct les points à reprendre, de répondre à ses questions, Et donc, en plus de lui transmettre après cette vidéo, qui sera pour lui une correction personnalisée, qu'on aura vu ensemble. Ça, je le vends maintenant en upsell. Donc, je propose un accompagnement collectif grâce à un groupe privé, fermé, c'est secret même, je crois qu'on dit maintenant,
oui.
Book. Et quand les personnes ressentent un besoin accru, voilà, je leur propose cet accompagnement individuel supplémentaire. Elles peuvent acheter voilà cette prestation. Faut que je la mette plus en avant, c'est vrai. Ça, c'est toujours pareil, hein. Il y a toujours des moments, voilà, dans l'offre, ce qu'on met en avant, ce qu'on propose un peu plus tard. Bon, tout ça, voilà, c'est des réflexions. C'est jamais rien n'est figé, donc c'est constamment à la réflexion, finalement.
Je comprends tout à fait. Et ça me fait rebondir, du coup. Tu m'as parlé de ta vidéo que tu mettais au-dessus de ton de ta table à dessin. C'est bien parce que ça me... Il me semble du coup que tu es quand même très investi là-dedans et que tu tiens à cœur en fait d'offrir une expérience de dessin et de pédagogie vraiment très poussée par rapport pour tes élèves. Et pour moi, ça a l'air d'être une force en fait pour toi.
J'ai bien cherché, creusé toutes les... En fait, par rapport à l'idée que je me faisais, bon, finalement, beaucoup de dessinateurs font des tutoriels, des tutos en filmant leur table à dessin. Moi, j'ai cherché aussi en streaming à pouvoir partager, non pas la webcam, mais une deuxième caméra qui se trouve sur ma table à dessin, que je puisse faire des allers-retours entre la webcam et la caméra sur la table. Finalement, bon, ben, j'y suis parvenue. Je me suis installée, équipée une structure pour fixer la caméra. Enfin voilà, tout ça c'était pas du matériel préconçu qui n'existait pas dans le commerce. On peut se dire que tout le monde bricole un petit peu son truc à lui. Voilà, mais je l'ai imaginé, je l'ai conçu, j'ai trouvé les pièces et je l'ai fabriqué. Du coup, effectivement, offrir la meilleure expérience possible. Et bien entendu, on est tributaire. Bon, bah, d'internet, ça m'est arrivé d'avoir là le mois dernier une vraie problématique de débit internet. J'ai dû changer d'opérateur.
D'accord.
Ça m'a un peu freiné, ralenti dans mes activités, mais bon, je compensais quand même en proposant toujours du contenu. Mais j'ai dû cesser les directs parce que la qualité des vidéos était vraiment terriblement mauvaise. Mais bon, c'est des soucis qui se règlent, hein, c'est pas non plus dramatique.
J'imagine bien. J'imagine bien. En tout cas, ça m'a l'air vraiment d'être une force pour toi de proposer vraiment un contenu pédagogique de cette qualité avec pas que de la vidéo juste en te filmant face caméra. Ça m'épate vraiment que tu puisses proposer cette expérience pour tes apprenants, et forcément en proposant du contenu de qualité comme celui-ci, forcément il y a une sorte, tu peux te démarquer de la concurrence par rapport aux autres. Enfin, c'est comme ça que je le ressens en tout cas.
Merci, oui, ça me touche, parce que c'est vrai qu'après, au-delà de ça, comme pour tout professionnel, faire des choses de qualité, parfois on n'en a peut-être même pas conscience, c'est pour ça qu'un retour comme le tien, bah, c'est chouette. Et puis après, il faut savoir aussi le communiquer, voilà, le transmettre. Bah, ça va leur ajouter sa plus-value, parce que c'est vrai que, comme j'ai dit, j'ai bien perçu que même faire ma différence, c'était comme quand on vient dans un cours en atelier. Bon, j'ai des élèves qui me suivent depuis 15 ans en atelier.
Oui.
Donc j'ai un attachement. Voilà, il y a un lien et on reste attaché à des personnes, des coachs, des formateurs qui nous ont accompagnés un temps dans notre vie. Et si la possibilité est notamment grâce au groupe Facebook, je n'exclus aucun membre, aucun élève qui a suivi ma formation et mis dehors du groupe. Donc voilà, il y a quelque chose quand même qui dure dans le temps, même si la pratique de la personne peut de nouveau se ralentir, pratique le dessin pendant un temps, puis beaucoup moins, mais il y a cette possibilité qui est ouverte, quoi.
C'est bien, c'est vraiment très intéressant. Alors, ça me permet vraiment de bien comprendre un peu ton activité du moment, des formations que tu proposes. Tu m'as dit que du coup tu avais dû te former aux différentes techniques numériques ou digitales, etc. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un formateur qui, comme toi, a une expérience dans la formation, mais qui ne saurait pas trop par où commencer s'il est limité, on va dire techniquement, sur les outils technologiques qui sont aujourd'hui en place?
Alors, je peux faire c'est vrai, un point sur les formations que j'ai suivies, sans citer de formation peut-être.
Bien sûr.
Je vais vous expliquer. Quand j'ai commencé, c'est vrai que je n'y connaissais pas grand-chose à Internet, sauf en tant qu'utilisatrice des réseaux sociaux. Et puis, vendre plus à plus de monde, le côté marketing, bon, c'était pas quelque chose qui était primordial, même si j'en avais conscience, hein. Et lorsque j'ai découvert une première formation, j'ai eu affaire à un grand marketeur, comme on dit, qui m'a fait en quelque sorte un peu rêver. Il m'a fait rêver en bien, il m'a fait croire, il m'a permis de m'aligner. C'était son travail, c'était sa formation était axée là-dessus. Et ça m'a mis en adéquation avec mes aspirations et le potentiel que j'avais et les possibilités réelles du marché. Donc je le remercie. En même temps, j'ai découvert grâce à lui des premiers outils et j'ai trouvé par moi-même d'autres outils. Ensuite, je me suis tournée vers un organisme de formation en ligne. J'ai pu me faire financer des formations. Donc ça, aujourd'hui, c'est accessible aux demandeurs d'emploi, aux professionnels, aux salariés. Donc j'ai suivi des formations pour faire un site internet, dans le marketing, Facebook. J'ai découvert des outils. J'ai découvert une approche, des communautés d'échange avec d'autres professionnels, entrepreneurs. C'était super. Il y a eu un petit creux de la vague, comme on dit. Comment cela se fait-il que tout ce qu'on m'a promis fait rêver des marketeurs avec des annonces, des promesses mirobolantes? J'en suis encore bien loin, faut dire la réalité des choses. Non, je vends pas pour des milliers d'euros, je fais pas des ventes, des prix, des tarifs exceptionnels. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je doute de moi. Bon, et j'ai décidé de faire redescendre cette pression, de prendre du recul, de ne rien arrêter. Mais de me dire, il y a pas d'urgence, j'étais un peu dans une course, hein, à la performance, non, mais il fallait qu'il y ait du résultat, puis on engage un peu des frais. Bon. Non, non, tout allait bien, j'ai dit, les choses vont se faire, faut que tu ressentes toi de l'intérieur, que tu te positionnes, et que ça te parle, et que ces choses-là te correspondent. Donc c'est venu petit à petit. Et maintenant, je devrais dire que si je me tourne vers des formations, je choisis celles qui vont m'apprendre à utiliser un outil. Parce que c'est à un moment donné un besoin que j'ai trouvé que tel outil, tel besoin était. Après, quand dans les formations, on vous fait aussi aborder l'aspect plutôt personnel, l'état d'esprit, c'est important. Mais est-ce que la formation est vraiment destinée à ça? Le formateur, non. Tente de vous dire, il y a l'état d'esprit qui compte, mais c'est peut-être pas vraiment ce que j'appellerais un coach pour tout l'aspect mental, développement personnel. Donc oui, j'ai en parallèle, j'ai fait un travail et j'ai trouvé une formation en développement personnel. Et donc j'ai travaillé sur des choses, moi, personnelles de ma vie, qui pouvaient me limiter, des croyances. On sait qu'on en parle aujourd'hui, c'est véridique. Et ça porte ses fruits. Donc maintenant, je distingue bien ces deux choses. Je trouve que c'est important de ne pas se tromper. Et même si on vous fait rêver à des choses, faut être conscient qu'il y aura peut-être un travail personnel à faire aussi. À moins que ça fasse partie de la formation. Et que ce soit proposé. Mais là, il faut savoir bon, à qui on a affaire et ce qui est proposé réellement. Et au moins, on est clair et on se dit, ben voilà, là, j'ai quelqu'un qui m'apporte une connaissance technique. Et là, j'ai peut-être besoin d'un travail plus personnel. Voilà.
Wow, ok, c'est trois minutes où tu nous livres beaucoup d'informations. C'est très humain, c'est très concret. Franchement, je suis bluffé du recul que tu as par rapport à ça, par rapport à la formation en ligne, aux compétences. Et je pense que il faudrait vraiment retenir ces 3 minutes, que ça soit pour des personnes dans ton profil artistique ou autre. Là, on va pas dire que c'est un discours de vie, mais on n'en est pas loin. Donc, en tout cas, je trouve ça très pertinent et on sent que tu as vraiment la bonne approche en fait à avoir. Et ça me paraît complètement pertinent de séparer vraiment le côté technique, utilisation des outils Et après, l'état d'esprit, le personnel. On sent vraiment que c'est deux choses qui sont distinctes, qui doivent forcément marcher ensemble, mais que chacun doit aller les chercher de chaque côté.
C'est vrai, je trouve.
Donc du coup, la question que je voulais te poser juste après ça, et qui pourrait intéresser forcément beaucoup de monde, c'est comment tu as fait pour acquérir tes premiers clients en ligne?
Alors, quand j'ai commencé, évidemment, pouvoir vendre mes premiers cours, j'ai pensé faire un site internet. Ça a été au début vraiment un site très très basique. Alors, en parallèle, peut-être grâce à une formation, en tout cas, j'ai découvert la possibilité avec Facebook de trouver les premiers clients. Et donc, c'est comme ça que j'ai démarré, parce que j'ai suivi, bon, finalement, un petit peu ce que j'apprenais, et ça a marché avec, je dirais, des gens qui ne me connaissaient pas, hein. De but en blanc, j'ai même vendu une méthode de dessin, un cours, sans accompagnement. C'est après que, bon, finalement, alors je dirais que les modes de communication ont vite évolué, hein, parce que là, je faisais une vidéo un peu particulière, il n'y avait que du texte. Puis ça n'a pas marché longtemps, parce que les gens trouvaient que finalement, ils sont plus méfiants, finalement, dès qu'ils s'habituent à quelque chose. Donc, par la suite, il a fallu être un peu plus créatif, les amener vers une page Facebook, et puis vers un groupe, que j'ai ouvert pour faire venir tous les passionnés de dessin. Voilà, donc on est obligé constamment de rester en fait en veille. Et c'est vrai que Facebook pour moi est un réseau qui m'a permis de toucher un public. Et j'aurais intérêt à trouver d'autres publics sur d'autres réseaux, ça c'est sûr. Par exemple, Pinterest, je l'utilise pas. Bon, je n'y suis pas mise parce que ça demande du temps. Ça serait certainement pertinent. Instagram, j'y suis, mais je l'utilise pas non plus au maximum, bien que ce soit couplé à Facebook quand on fait de la publicité. Donc j'ai utilisé le mode de publicité payante, ça c'est sûr, et je peux dire que ça marche. Voilà, ça marche parce qu'on a des résultats. Après, il faut juste bien gérer, tout simplement.
D'accord. Et donc, du coup, tu me dis que tu as commencé sur Facebook. Quel était un peu le tunnel de conversion que tu proposais, à tes prospects?
Alors, curieusement, ce qui a marché dès le départ, comme on dit, les gens ne connaissaient pas. Je leur transmettais donc dans la publicité l'accès à une vidéo qui durait 20 minutes et dans laquelle, alors là, il y avait du copywriting, hein, c'était très clairement construit et ça les poussait à l'achat. Et j'ai fait
D'accord.
mes premiers clients grâce à ça. Avec également aussi, sur la même période, un partenariat avec un gros site de fourniture en beaux-arts, qui a fait paraître un article. Et dans l'article, ça renvoyait vers le lien de cette vidéo. Donc j'avais, en fait, un petit peu au-dessus, voilà, autour de moi, enfin, la notoriété de ce site, qui valorisait finalement. Et ensuite, c'est vrai que j'ai arrêté ce genre de vidéo parce que moi-même, je n'en voyais plus, pas du tout ou plus sur Facebook, et que les gens commençaient à être plus méfiants. Ah ben tout ça, c'est bien beau. Il n'y a pas vraiment de valeur offerte. Il y en avait quand même un peu. Mais tout ça, c'est pour nous vendre quelque chose. Donc quand ça commençait à arriver les commentaires, j'ai dit effectivement c'est pas ça que je souhaite. Donc on est obligé bon, d'amener de la valeur, d'amener les gens à nous connaître davantage. Donc ça demande plus de travail. On va consacrer du temps, on va faire des lives Facebook, on va parler, on va offrir voilà de la valeur. Pour petit à petit leur dire ben, maintenant pour aller plus loin, je vous propose tel cours et tel cours. Donc au début j'ai eu cette chance, je dirais cette chance, c'était tant mieux. Ça m'a crédibilisé, j'ai dit, ça y est, je sais que c'est potentiellement possible. Et je crois que sans ça, peut-être que je me serais un peu découragée, ça aurait mis un peu plus de temps, si j'avais vraiment rien vendu avec mes premières publicités Facebook.
Bien sûr, j'imagine que forcément c'est encourageant. La première fois que tu te lances, tu fais une publicité Facebook en directement proposant une vidéo de vente et ça marche derrière. Forcément, pour toi, ça peut être super encourageant pour la suite. Et donc après, comme beaucoup beaucoup de personnes qui le disent aujourd'hui, et tu l'as très bien résumé, il faut aujourd'hui obligatoirement proposer de la valeur et de la valeur gratuite. Pour faire confiance à son prospect et pour après, on va pas dire le pousser à l'achat, mais pour qu'il ait confiance
Bien sûr.
en la valeur que le formateur puisse proposer. Et après, forcément, dès qu'il y a de la confiance, et ben on sait qu'on peut faire confiance au formateur et acheter sa formation qui va avoir un contenu très pertinent et de qualité.
Et je dirais en repensant à, puisqu'on parle à de la confiance, j'ai un échec parmi les formations que j'ai suivies. À un moment donné, j'ai ressenti le besoin d'être justement un peu plus accompagnée, coachée. J'ai donc souscrit à une formation, c'est la plus chère de toutes, elle n'a pas été financée. Et très vite, j'ai compris que on n'allait pas me faire travailler le côté personnel, psychologique, l'état d'esprit. Aïe, je me suis dit, tant pis, tu en es pour de ta poche. Mais j'ai compris. En même temps, c'était pas un échec, puisque j'ai compris que c'était ça qu'il me fallait. Et que j'allais là vers quelqu'un qui allait de nouveau m'apporter une énième fois des processus, des outils, des recettes, mais que ça questionnait pas en moi les véritables freins, blocages. Et donc, ça a été un mal pour un bien, finalement. Bon, ben, j'aurais pu économiser, mais finalement, on ne regrette pas. À ce moment-là, je me suis dit que je le valais bien. C'est tout ce que j'ai retenu comme phrase pour me... le côté positif.
D'accord. Et donc, là, tu m'as parlé de tes débuts pour vendre tes premières formations. Et aujourd'hui, est-ce que tu as un processus, une sorte de routine qui te permet, si je puis dire, de vendre régulièrement ton contenu?
Alors, oui, la routine, elle se fait sur trois axes. Garder toujours le contact avec ma communauté régulièrement. Sur le groupe Facebook, je mets aussi en parallèle des vidéos sur YouTube, créer du contenu toujours. Alors je suis en lien avec des élèves et par chance parce que c'est en présentiel et en ligne, et donc je suis ravie quand ils ont des questions, quand je dirais des problèmes, non, j'aimerais mieux qu'ils aient tout de suite réussi, non, mais leur problème me fait réagir et tout de suite rebondir sur des solutions. Je crée des contenus nouveaux. Donc pour ça, c'est interactif. Donc voilà. Et en même temps, le troisième axe, c'est constamment créer sur mes réseaux sociaux, sites et voilà, tout ce qui me permet la visibilité, du nouveau contenu, d'actualiser, créer un peu le côté un peu nouveauté, même si c'est pas très fréquent non plus, hein, parce que je renouvelle pas de tout au tout. Mais je vais peut-être intituler la formation ou la mettre dans une version un peu différente. Voilà, je teste en réalité aussi vers de nouveaux publics. Voilà, je sais que là, par exemple, j'ai un personnage, je sais que je vais m'adresser à une cible. Je suis en train de faire des recherches pour les contacter d'abord, faire un peu une étude, on va dire, hein, avant de pouvoir proposer une offre toute faite, quoi.
D'accord. C'est vraiment vraiment très intéressant, parce que du coup, tu me dis que en fait, on est toujours dans un processus de création perpétuelle et d'essayer du coup de rester dans l'air du temps pour du coup toucher plus de monde, attirer plus de personnes, tout en proposant toujours plus de contenu. Donc en fait, c'est quelque chose qui peut pas s'arrêter, en fait.
Il y a des phases plus ou moins productives, mais ça peut pas s'arrêter. Si ça s'arrêtait, je pense que je perdrais un peu le sens, le contact. Il y a des choses qui peuvent être faites one shot, une chose qu'on édite, qu'on vend et qui restera en l'état et qui peut se vendre de manière récurrente. Donc ça, je le fais tout simplement parce que les contenus que j'ai créés, que je vends moi en direct, j'ai trouvé le moyen de les proposer à des éditeurs, puisqu'on peut appeler ça aussi des éditeurs de formation, et ils les mettent sur leur plateforme et ils se chargent de les vendre. Donc je touche des royalties finalement. Donc là oui, vous voyez, ça aussi c'est une diversification, c'est-à-dire je fais moi le travail de vendre en direct, et heureusement qu'ils ne m'interdisent pas aussi de vendre en direct.
Bien sûr.
Sur leurs concurrents, mais moi je peux mettre et vendre mes contenus. Donc ça c'est bien aussi.
D'accord. Si c'est pas indiscret, y a combien de pourcentage de commission, par exemple, sur un site comme celui-ci?
La plateforme en question, elle a plusieurs taux de rémunération, mais ça va pas en dessous de 14%. Ensuite, il y a 47%. Presque 50%, on va dire. Mais alors ça, c'est en fonction de ce qu'ils font comme démarche marketing. Quand ils font des grosses opérations eux-mêmes, avec des partenaires, etc., qui leur occasionne beaucoup plus de frais, la commission n'est que de 14%, c'est le minimum.
D'accord.
Et même je peux, par un lien d'affilié, promouvoir les cours sur cette plateforme, et là je touche 97% du prix de vente. Alors ça, je le promeux pas, ce lien, parce qu'ils vendent quand même la formation à un prix inférieur. Enfin, je l'ai conçu, hein. Il n'y a pas une totalité, puis il n'y a pas l'accompagnement non plus.
D'accord.
C'est quelqu'un qui achète, voilà, une formation vidéo, qui va l'avoir sur son ordinateur, et elle est autonome, et voilà. Mais c'est complémentaire, c'est bien pour la visibilité, c'est comme, je pense que je suis en train de vouloir maintenant aller me faire éditer un livre pratique chez un éditeur, même si ça rémunère peut-être pas énormément, c'est plus pour, voilà, diffuser, être reconnu, avoir voilà, la possibilité aussi de se faire connaître par ce biais-là.
D'accord. C'est vrai que ça me paraît vraiment pertinent. Au final, même si on gagne pas la totalité de l'achat de la formation, forcément, plus on vend, plus on se fait connaître, et c'est forcément du coup le coût à payer. De se rémunérer un peu moins sur des formations que d'autres personnes pourraient vendre, mais au moins du coup c'est vrai que ça peut faire parler, ça peut faire du bouche à oreille, ça permet d'avoir une encore plus grosse crédibilité et de se faire connaître auprès d'un marché que tu n'aurais pas pu toucher toi-même.
C'est sûr, et puis c'est du temps que l'on ne consacrera pas, ni des moyens que l'on mettra dans la publicité.
Bien sûr.
Chacun peut l'évaluer, quel pourcentage représente mon investissement publicitaire, le temps que je consacre à élaborer des publicités, le temps pour toute la partie marketing, elle peut représenter pas loin de 50% parfois de son temps d'activité, temps de travail.
Tout à fait.
Donc finalement, si on reverse 50% à quelqu'un qui s'occupe de la partie commerciale et marketing, pour moi, franchement, je trouve ça très très bien parce que ça me laisse du temps pour me consacrer plutôt à mon expertise, quoi. À ce que j'aime faire en priorité quand même.
Je suis complètement d'accord, parce que c'est vrai que quand même, au-delà d'être formatrice en ligne, ta passion, ça reste l'art, le dessin, la peinture, et pas spécialement le marketing et la communication.
Exactement, oui. C'est un peu un passage obligé, mais je préférerais le déléguer pour tout dire.
Je comprends tout à fait, et je pense que c'est aussi le cas de beaucoup de personnes qui se retrouvent obligées d'approfondir leurs connaissances en marketing et communication, mais c'est pas spécialement un vrai plaisir, et au final c'est un peu les tâches obligatoires du métier, mais si les gens pouvaient s'en passer, ça serait l'idéal.
Je pense aussi.
Je comprends bien. Ok, on a fait le tour de beaucoup de choses. Tu m'as donné beaucoup de contenu très pertinent, et je suis sûr que ça pourra intéresser beaucoup de personnes. Avant de finir sur ma petite série de trois questions, j'avais une dernière question à te poser pour toi. Quels sont les outils principaux que tu utilises dans ton activité de formatrice en ligne?
Alors, pour les montages de vidéos, j'utilise sur Mac, je peux parler de logiciels, des choses comme ça.
Oui, bien sûr.
ScreenFlow, bon, il y en a d'autres, hein, mais celui-ci, pour moi, était intéressant. Pourquoi? Parce que, une fois le montage fait, je peux ajouter des annotations. Je peux flécher, je peux pointer, je peux surligner, encadrer. Voilà, j'utilise aussi en ligne Kidzoa. Alors là, c'est plus pour des vidéos de marketing. Parce qu'en termes de montage et d'animation, moi qui n'y connaissais rien, je fais des vidéos rythmées, vraiment avec de l'animation, Kidzoa. Et j'utilise aussi Canva pour voilà, les bannières, les visuels, les publicités Facebook, etc. Donc, pour ensuite créer des contenus hors vidéo, des PDF, simple. Et puis c'est tout. Hein. Après la vidéo, bon ben moi je filme, peu importe la caméra, mais le montage quand même qui est important pour trouver bon dans l'approche pédagogique que l'on a, hein, le contenu, il est rythmé, il est séquencé, il est divisé en un certain nombre de séquences. Et puis c'est tout, parce que tu vois autre chose.
Ça me paraît déjà très intéressant. Ok. Donc je vais finir sur ma série de trois questions pour toi. Est-ce que tu as une routine matinale?
Alors, je vais dire oui, je cherche à mettre en place certaines routines. Et en même temps, non. Je pense que la routine m'endormirait un petit peu. Je n'aime pas travailler dans l'urgence. J'aime anticiper. Donc ça, c'est plutôt, voilà, j'essaye de temps en temps de me dire, planifie, la planification. Donc en termes de routine, voilà, je prends des moments pour planifier. Sur le court et moyen terme, ça marche bien. Sur le long terme, c'est plus difficile parce que rationnellement, ben, j'entrevois mal. Je me dis qu'il y a le temps qui est encore là, qui joue pour moi. Et plus ça va, plus j'essaye. Et je me dis que sur le long terme, voilà, j'essaye d'anticiper, de planifier des événements aussi à réaliser. J'ai de temps en temps, mais ça c'est lié au fait d'être seule, la sensation de démarrer plus lentement une journée, d'être un peu diluée. Peut-être que je m'arrête sur des. Alors, il y a des mails auxquels je réponds très vite le matin, prioritairement. Quand je sens que c'est la demande d'un client, d'un
Ouais.
prospect, je n'aime pas laisser attendre ces mails-là. Donc ça, en routine, je traite tout de suite. Je sais que c'est pas grave s'il y a eu des jours où je démarre moins vite, que je suis un petit peu diluée dans des réflexions. J'ai besoin d'aller voir, tiens, peut-être un podcast, une vidéo inspirante. C'est pas grave. Ça m'aura redonné, peut-être insufflé, ce moment de, voilà, d'énergie. Parce que si on travaille seul, et ben voilà, hein, il faut aussi accepter que tous les jours ne se ressemblent pas. Donc c'est pas évident de maintenir une routine, je pense, quand on est seul. Mais c'est en même temps, au moins de le faire, d'essayer et de garder des petites choses comme ça en place.
Ok. J'apprécie un peu ce que tu dis, le fait d'avoir une routine, mais en fait pas trop, parce que sinon on va un peu trop s'endormir sur cette habitude. Je pense que ça peut être un axe à creuser pour certains, puis d'ailleurs même pour moi. Alors, deuxième question, est-ce que tu écoutes des podcasts?
Récemment, oui, j'en ai découvert. Et puis, oui, c'est vrai. Je trouve c'est, en plus, c'est vraiment pratique. Donc, quand on m'en partage, alors, je fais pas moi-même des recherches. Je saurais pas trop d'ailleurs où aller trouver des podcasts. Ce n'est
Ouais.
vraiment comme les tiens, par exemple, que j'ai découvert, bien sûr. Voilà. Quand on m'en partage, je suis curieuse et c'est un mode, c'est un format très intéressant.
Ouais, je suis complètement d'accord. Est-ce que tu en as un ou deux à nous conseiller ou pas spécialement?
Récemment, c'était le podcast d'une artiste, d'une personne à la rencontre des artistes. Et celui-ci m'intéressait bien en raison du domaine dans lequel j'évolue, parce que j'ai d'ailleurs moi-même beaucoup côtoyé d'artistes dans mon espace de travail ici. J'ai fait travailler beaucoup d'artistes. Et c'est vrai que ben, au quotidien, leur vécu, leur manière d'aborder l'activité professionnelle, il y a l'activité artistique, mais aussi leur positionnement professionnel. Mais j'avoue que j'ai un blanc, j'ai un trou de mémoire.
Ok, pas de
C'était.
problème. Je pense que si on fait quelques petites recherches sur le net, on pourra trouver facilement ce podcast. Et donc, dernière question, avant la fin du podcast. Tout à l'heure, tu me parlais de formation que tu avais suivie. Est-ce que tu en recommandes une en particulier ou pas?
Ben, l'organisme qui m'a permis d'avoir enfin des formations alors, complètes. L'avantage, c'est qu'ils ont un catalogue de formations. On peut aller piocher vraiment ce dont on a besoin et compléter au fur et à mesure. C'est Live Mentor. Parce qu'effectivement, d'abord, l'avantage, c'est qu'on ne va pas tout aborder d'un coup. Si on veut s'intéresser à Facebook, et bien on peut choisir Facebook. Si on démarre et qu'on se lance, c'est tout neuf comme activité professionnelle en tant que freelance, eh bien, on peut se dire, ben là, je vais avoir un accompagnement. Et démarrer comme ça, ben c'est très bien, parce que moi à l'époque ça n'existait pas et j'ai démarré, ben j'ai toujours été freelance, hein. Donc sur le tas comme on dit, avec en plus une, bon un parcours artistique on n'en parlera pas, c'est pas le propos, mais les artistes sont peu préparés à l'activité professionnelle en tant que freelance. Donc, je conseillerais à des artistes formés aux Beaux-Arts, par exemple, de ne pas hésiter à suivre une formation complémentaire aux Beaux-Arts. Sinon, c'est quand même difficile de se faire sa place dans le monde économique actuel, quoi.
Je comprends tout à fait ton point. Ok. Bon, bah écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Tu nous as donné beaucoup d'informations. J'ai vraiment trouvé ça très intéressant d'échanger avec toi. Et vraiment le fait que tu aies un parcours artistique et du coup un peu différent des autres personnes que j'ai pu interviewer, je pense que ça peut donner une vraie plus-value à ce podcast. Et je te remercie sincèrement, Valérie, pour le temps que tu m'as accordé.
Je te remercie aussi beaucoup, Alex.
Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'ai beaucoup apprécié l'échange humain et transparent avec Valérie, et je pense qu'on peut apprendre beaucoup à travers son expérience et tout ce qu'elle nous a transmis aujourd'hui. De plus, d'avoir un profil comme Valérie, un peu différent de ce que j'ai eu l'habitude d'interviewer auparavant, je pense que ça pourra en inspirer d'autres. Donc ça veut bien dire que même ceux qui sont dans les autres domaines que ceux du web marketing, peuvent aussi transmettre leur savoir en ligne. Si vous voulez retrouver Valérie Plou, je vous invite à aller la voir sur internet, sur son site valérieplou.com. Je suis sûr qu'elle vous fera un plaisir de vous accompagner dans votre épanouissement artistique. Je finis ce podcast en vous indiquant que si vous aussi vous avez envie de vivre de votre passion sur le web, mais que vous ne voulez pas vous compliquer la tâche avec le côté technique, chez les formateurs libres, nous vous mettons à disposition un outil complet pour construire votre activité sur le web rapidement et simplement. N'hésitez pas à regarder sur notre site internet et à tester notre service avec notre essai gratuit de 14 jours. Je suis sûr que vous allez l'adorer. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.